Ok, oui, 14h, 1 minute, bienvenue dans le retour à Boulevard 102.1. Bon, mercredi sous, je vous dirais des nuages actuellement, mais pas de pluie. C'est comme le compromis qu'on semble avoir trouvé pour une bonne partie de la journée. Là, reste à voir pour ce soir. Je sais que notamment, on est plusieurs à surveiller ça en raison du Festival de Lévis qui s'amorce ce soir avec une soirée électro et pas avec n'importe qui, avec Marshmello qui est toute une prise pour le festival. À date, je vous dirais qu'on risque de se faire mouiller un petit peu ce soir, mais que ce ne sera pas catastrophique non plus. À suivre de ce côté-là. Mais pour le reste de la journée, c'est un 60% de possibilité d'averse. Demain, c'est 30% avec 24 degrés. Vendredi, ça reste une belle journée, 26 degrés, alternance soleil nuages. Samedi, 26 degrés nuageux. Dimanche, retour de la pluie. Mais on verra ce qui va se passer rendu là. Sur la route, je dirais que c'est assez mollo. Là, un petit ralentissement sur la 20 ouest. Hauteur Taniata. En fait, entre Chemin des Îles et Taniata, là, c'est pas mal la normale avec les travaux. Sur la Rive-Nord, ça va encore assez bien. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto. Donc, l'équipe du retour qui s'installe, nous en reste deux à faire. Avant le retour de l'équipe de Gravel dans le retour avec Denis, Véro et Audrey lundi. Mathias Turcotte, bonjour.
Bonjour.
Antonin Iacarini, bonjour.
Allô.
Et se joint à nous Gabriel Marino que j'ai croisé dans le corridor. Puis que là, parce que là, tu venais faire une entrevue, c'est ça?
Ouais, hein? Ouais. J'étais encore ici dans les bureaux à flâner.
Ben, c'est ça. Puis je t'ai dit, d'abord, je t'ai demandé si c'était le fun ton entrevue et tout, par politesse et
c'est
tout
le
ça.
Fun.
Puis là, notre discussion là-dessus était super, mais là, je t'ai dit, hey, ça te tente-tu de venir nous parler de hockey? Parce que Macklin Celebrini va devenir le joueur le mieux payé de la Ligue nationale de hockey à partir du 1er juillet prochain, parce que son contrat va kick-in dans un an. Mais avant toute chose, on va mettre les priorités à bonne place. Puis je sais que ça t'intéressait beaucoup aussi, Gab, en tant que gars de country, évidemment. Antonin Iacarini, dis-nous donc ce que tu faisais à matin.
Pourquoi?
Ça t'a
surpris un peu. Hein?
Ben, je savais pas si tu niaisais, parce que là, matin, je me réveille plus tôt qu'à l'habitude quand même.
J'ai remarqué, d'ailleurs.
Je me suis recouché après, mais quand même. Puis là, tu nous garochais un paquet de sujets, comme d'habitude, puis t'as dit, je reviens tantôt, je m'en vais tirer du gun.
Ouais.
Toi, t'es mercredi matin, là.
Mais le mercredi matin, c'est vraiment ma matinée de...
Tirage de
gun.
De violence.
Non, c'est pas violent du tout. En fait, là, vous m'imaginez sûrement là, habillée en camo, de la tête aux pieds, avec des mitraillettes qui tirent sur des cibles en criant.
Des longues bottes
USA,
noires aussi.
USA, ouais. Mais non, en fait, je continue de garder la main pendant l'été en prévision de la chasse cet automne. Alors, je tire des pigeons d'argile.
Ah,
aucun animal n'a été blessé. D'ailleurs, je suis toujours surprise de voir des oiseaux dans le champ de tir. C'est pas un bel endroit pour chiller, les
c'est
amis.
C'est où que tu fais ça?
C'est un centre de tir sur la rive sud.
OK.
Donc, effectivement. Puis, il pleuvait ce matin en passant.
Ça tire-tu moins bien?
Non, c'est correct. C'est correct. Avec un 12, ça va bien. Puis, il y a juste des petites gouttes d'eau dans les lunettes. Mais c'est pas grave.
Bon, ben, fait que ça, c'est coché.
OK, toi, t'as ouvert la discussion et t'avais pas plus de questions que ça.
Non, c'est ça. Ça m'a fait plaisir.
Non, mais dans le sens, tu t'es amusé?
Voyons, Max.
D'abord, OK. C'est une bonne question. Bravo pour ta belle question, Maxime. Je sens que vraiment ton intérêt est très présent. Oui, c'est amusant de tirer quand même. Là. C'est un feeling.
C'est dispendieux.
Ah, bonne question,
ça,
Gab.
En fait, c'est ça.
Je vais essayer de faire l'animation à ta place.
Merci. Finalement, je suis vraiment contente de t'avoir accroché, Gab. On voit la plus-value déjà. C'est que moi, je vis ma crise de la quarantaine en ce moment. Puis, il y a des gens qui vont divorcer, puis qui vont flusher leur famille, puis se rematcher avec des gens plus jeunes. Moi, je vis ma crise de la quarantaine. Je me suis mise à la chasse. Donc, c'est tout un processus, là. C'est pas simple, surtout quand tes parents sont pas chasseurs et tes grands-parents
sont pas
chasseurs.
OK, parce que c'est nouveau.
Oui, c'est relativement nouveau.
Ah, ça, c'est intéressant, vois-tu?
Bon!
Tout est intéressant depuis le début.
C'est inutile que t'écoutes pas. Ça n'était pas.
C'est lui qui a mis ce sujet-là à l'émission, en plus.
Il cherche de quoi?
Ça fait maintenant un an que je passe mes permis, que je m'équipe tranquillement. Voilà.
Quand tu dis quand tes parents ou tes grands-parents le faisaient pas, c'est parce qu'il y a comme un close grand-père à ça? Ou...
Non, pas vraiment, mais c'est que... Honnêtement, quand tu viens pas d'une famille de chasseurs, c'est un monde que tu découvres. Puis on est très citadins. Moi, c'est plutôt le contraire. Je viens plus d'une petite famille d'hétéro, là. Ouais. Fait qu'ils sont probablement très surpris de voir que j'ai cette nouvelle passion-là.
Est-ce que tu as eu l'impression de te faire juger dans des magasins de... qui vendent ce stock-là?
Parce que je suis une femme?
Oui, mais aussi citadine, mettons, où t'arrivais avec des questions qui peut-être te posaient qui étaient à leur sens niaiseuses.
Ouais, ou... ben, écoute,
moi, ce serait ma part.
Moi, j'arrivais avec une gêne puis un stress, puis pas du tout. Puis quand tu rentres dans le monde de la chasse, tu découvres vraiment une communauté où est-ce que mentorer les autres, ça fait vraiment partie du sport.
Cool.
Et tu sais, il y a beaucoup de bénévoles dans ce milieu-là. Il y a des gens qui vont être bénévoles au centre de tir, sont super impliqués, ils vont être officiers de tir. Tu as des gens au Québec qui ont des chiens de chasse, puis que quand tu vas chasser dans certaines régions, tu peux les appeler pour qu'ils viennent t'aider à chercher tes proies, puis c'est tout bénévole aussi, des clubs de chasse,
t'as-tu
etc.
Ça? Non.
Un chien?
De chasse?
Moi, j'ai un chien, mais je pense qu'elle nuirait davantage qu'elle okay. aiderait. C'est supposé, c'est un caniche, fait que c'est supposé d'être utile pour aller chercher des canards. Mais mon chien, moi, jappe tout le temps, fait que je pense qu'elle ferait peur aux proies.
Qu'est-ce qui vous a intéressé, Mme Iaccarini, à ce monde-là de la chasse, étant donné que vous n'étiez pas... Vous n'avez pas baigné là-dedans?
Merci pour cette excellente question, M. Larouche. Ben, d'ailleurs, Max, toi qui viens d'une région, là...
Ouais.
Ça t'a jamais attiré,
jamais.
La chasse?
Jamais. J'ai pas du tout une famille de chasseurs. Vraiment
non plus,
pas.
Bon.
Non.
Je te dirais que ce qui m'a attiré, c'est vraiment, c'est cliché, mais la connexion avec la nature, puis de faire une activité que je trouve vraiment naturelle pour nous. Est-ce que vous êtes déjà allé à la pêche?
Ben oui.
Tu sais, le temps à la pêche, semi, bon... à découvrir pour toi. Le temps à la pêche, là, c'est comme, tu sais, il s'est passé 6 heures, puis t'as l'impression que c'est passé 15 minutes, parce qu'il y a quelque chose de vraiment agréable et naturel dans l'idée de traquer une proie, d'attendre, de préparer tes choses, puis après ça, ben, il y a une grande satisfaction d'attraper quelque chose. Puis ça fait plusieurs années que je pêche, là, puis que ça non plus, c'était pas vraiment une activité très familiale chez nous. J'ai eu un chum qui aimait vraiment, vraiment ça, puis je l'ai fait beaucoup dans les dernières années, un peu moins. Puis pour moi, la chasse, c'était comme la continuation.
Avec qui tu chasses? As-tu des proches qui chassent ou tu te lances là-dedans?
Je me suis lancée pas mal seule au départ. Mon chum, très intéressé aussi, il est comme quelques étapes en arrière de moi, mais il est en train de me rattraper, puis on est quand même vraiment dedans. Donc en plus, une activité de couple, c'est vraiment bien.
Oui.
Mais l'autre fois, j'étais allée souper avec des amis, deux de mes amis, zéro, tu sais, des gens qui me ressemblent beaucoup, mettons. Et en jasant, je me suis rendu compte qu'un autre de mes amis vivait sa crise de la quarantaine de la même manière. Donc là, je me suis trouvé un ami pour aller au centre de tir. Lui aussi est vraiment là-dedans. Puis, il y a Philippe-Vincent Foisy, journaliste à Québécois, qui a écrit un livre aussi sur la chasse récemment, puis que j'ai comme ça découvert que lui aussi s'était vraiment mis. Lui, parce qu'il s'est fait une blonde abitibienne en passant.
Ah.
Puis, il est vraiment tombé là-dedans aussi avec la famille de sa blonde. Puis aussi, anecdote, quand je suis allée faire mon permis de maniement d'armes, il y avait un autre, comme un journaliste que je nommerai pas, qui était dans le cours, puis que lui aussi, c'est comme un peu un citadin, puis tout ça, puis il a décidé de s'y mettre. Je pense qu'il doit être un petit peu plus jeune que moi, mais je vois qu'il y a comme un intérêt grandissant. C'est sûr que là, peut-être que je suis biaisée parce que je m'en rends plus compte, mais je sens qu'il y a un intérêt de... une espèce de regain pour la chasse.
Puis après ça, tu vas commencer à écouter de la musique country.
Ben c'est
ça,
la prochaine étape, là. Ouais. Mais je ne suis pas rendue là encore.
C'est quand tu vas pouvoir chasser pour vrai,
c'est
mettons?
C'est automne.
Ah ouais?
Là, j'ai fait mon permis. Faut
ça
d'abord
prend
que tu fasses
temps,
ton
ouais?
permis d'armes. C'est quand même, ça prend quelques temps. Pour...
Plus long qu'un permis de conduire?
Non, c'est un peu différent parce que c'est vraiment une journée complète. Mais c'est pas si dur que ça, mais il faut le prendre au sérieux. Mais après ça, ben, il faut que tu te fasses vêter par la GRC. Après ça, tu vas commencer à t'équiper, à acheter tes armes. Il faut que tu te fasses vêter par la SQ. T'sais, c'est très bureaucratique et un peu long. Après ça, il faut que tu fasses ton permis de chasseur. Ça, j'ai fait ça au début de l'été. Puis après ça, il y a des types de chasse qui demandent des permis particuliers, notamment le dindon sauvage, des choses comme ça.
Le dindon, toi? Ou...
Moi, c'est le canard qui m'interpelle particulièrement parce que je trouve que c'est le plus facile à gérer aussi. Tu sais, quand... Je m'excuse, là, mais le jour où est-ce que je vais tuer un orignal, tu gères ça après, là?
Oui, c'est ça.
Ça demande une infrastructure.
Tu sais,
tu mets pas ça dans ta civique, genre?
Ouais.
Fait que ça, c'est un autre niveau, mais je commence plus sérieusement cet automne, je vous ferai un follow. Je vous amènerai
après la campagne électorale, right?
Oui, pendant la campagne. Ça... Mais de toute façon, c'est plus fin octobre, début novembre, la chasse.
Bon, ben, hey, c'était...
Hein? Une chance que Gabriel était là, par contre.
Il a fallu juste que je me fasse ramener à l'ordre, qu'on me fasse allumer sur le fait que, hey, il y a encore une coupe d'angle à couvrir. Puis après ça, on a pu avoir du fun. Y a-tu des angles qui n'ont pas été couverts, à ton avis?
Ben oui, plein.
Oui,
là,
j'en doute pas, mais
les vêtements, qu'est-ce que ça implique comme dépenses? Tu m'as demandé tantôt si ça coûtait cher, non?
Oui, je pense que j'ai demandé ça. Tu l'as pas dit?
C'est quand même c'est des sous. Ouais, c'est
1000?
Non, écoute, une arme, ça peut coûter jusqu'à 1000$.
Fait qu'après ça, t'as le permis, les cours à payer. Pis tout.
Ah ouais, puis après ça, faut-tu te rendre.
L'accès?
Non, c'est quelques milliers de dollars par année. Okay. C'est pas pour faire une fois de temps en temps.
Puis tu rentres pas dans ton argent en tuant 15 canards.
Non,
en mangeant puis en disant, j'ai économisé
amène,
sur l'épicerie.
Mais Gap, tu rentres
Gap,
jamais.
Tu m'ouvres la porte.
Non, mais.
Tu m'ouvres la porte à parler d'un autre sujet dont je voulais parler cette semaine, mais que les gars voulaient rien savoir, le jardinage.
Bon.
Le jardinage,
est-ce qu'on
tu dépenses beaucoup plus
ouais.
que les deux tomates cerises que tu réussis à faire pousser, mais c'est le processus.
C'est une passion.
C'est ça. Ouais.
Bon. Ben merci beaucoup, Antonine.
Hey, merci à toi.
On pourra assurément en reparler.
De ton intérêt.
Non, mais c'était intéressant pour vrai.
Oui,
c'est juste qu'on commençait ça mollo. Puis,
tu te réchauffes, là. C'est correct.
Gab Marino,
oui.
Maintenant qu'on a pu passer un questionnaire complet, là, Antonine, sur la chasse, pourquoi je veux que tu viennes? C'est parce que il y a un nouveau contrat qui s'est signé dans la Ligue nationale de hockey ce matin. Et Macklin Celebrini des Sharks de San Jose deviendra le joueur le mieux payé de la LNH. Puis en même temps, on dit ça, mais c'est pas sûr encore.
T'as
parce
raison.
Que c'est un contrat qui commence le 1er juillet 2027. Tu sais, cette année, là, Celebrini est encore en bas d'un million.
Ouais.
Là. Il est encore sur son contrat de recrue. Mais à partir de l'an prochain, ça va être 18,8 millions par année sur 5 ans. Ta première pensée sur ce contrat-là, quand tu l'as vu, ça a été quoi?
C'est encore de se dire à quel point les contrats des joueurs du Canadien sont ridicules.
Ouais.
Ils vont l'être pendant longtemps et faut réaliser à quel point ça donne une marge de manœuvre. Puis que tu sais, quand le Canadien n'était pas excitant, là, puis qu'on avait l'impression que personne ne voulait venir jouer à Montréal à cause des taxes, à cause des impôts, puis que ça désavantageait. Puis là, aujourd'hui, ça n'existe plus, ce monde-là, comme par magie, alors qu'il n'y a rien qui a changé à part la culture de l'équipe du Canadien. C'est vraiment bizarre ce qui se passe. Puis moi non plus, j'aurais pas gagé en 2017 que 10 ans plus tard, le Canadien aurait peut-être la masse salariale la plus avantageuse de la Ligue en comparaison sur les joueurs qui sont signés à long terme, sur le capitaine. Les autres, il faut qu'ils gagnent un peu moins que lui.
Tout le monde, à peu près, les gros joueurs, à 8-9 millions. Là. Ça, comme,
ça pas
tu
temps.
Regardes ça aujourd'hui.
C'est le double.
T'as deux gars pour un Celebrini. Puis on s'entend, Celebrini, il n'y a pas un joueur du Canadien qui arrive à acheter. Mais ça donne quand même une idée.
C'est qu'après ça, tu as encore 11 attaquants à signer quand même. Ça demeure un pourcentage relativement normal du plafond salarial. Et c'est ça qui est spécial, c'est que le plafond augmente beaucoup parce que les revenus de la LNH augmentent beaucoup. Et donc, les salaires augmentent en conséquence parce que c'est dans la convention collective. Il faut qu'il y ait 50% de tous les revenus de la Ligue. Fait que ça donne ça.
Mais quand tu parles
en pourcentage de masse salariale, c'est la même chose que les 9 millions, les 8,7 de Sidney Crosby, il y a 15 ans. Là.
Mais, veux pas, Daniel Brière est venu mettre la marde dans tout ça avec son offre hostile. Ouais, Kaprizov aussi, mais l'offre hostile, on dirait, qui a été faite à Leo Carlson, que les Ducks ont fini par égaler à 18 millions pour un gars qui, honnêtement, en vaut peut-être
12.
Ça, c'est venu tout débalancer. À partir de ce moment-là, Celebrini, tu sais, là, je veux dire, Connor Bedard a signé quand
15.
Même pour 15.
Ouais.
Je pense qu'il aurait pu aller chercher plus que ça. Celebrini est allé chercher 18,8.
Bedard, il a été blessé trop souvent.
Ça, mais veux pas, je pense que moi, il y a un après et un avant Carlson.
Ben, j'ai l'impression que même Macklin Celebrini, il y a presque de quoi de spécial encore plus que, par exemple, avec Leo Carlson. Parce que Leo Carlson, c'est une offre hostile. Puis par le passé, des offres hostiles, comme par exemple ce qu'on avait eu avec Shea Weber,
que
d'ailleurs c'était les Flyers, ça devient pas nécessairement un contrat de comparaison pour les négociations, parce que autour de la table, c'est facile de dire « Ouais, mais c'est une offre hostile.
Ouais. »
C'est pas réaliste de penser qu'une personne qui signe avec son équipe va avoir ça. Mm-hmm. Mais là, Celebrini a signé vraiment avec son équipe, avec les Sharks de San Jose. Fait qu'on parle même pas d'une équipe qui met pression sur l'autre équipe. On parle juste d'une négociation entre un joueur puis un DG qui est arrivé un montant aussi gros que ça.
C'est-tu quoi qui m'a surpris le plus de ce contrat-là? Puis peut-être qu'on a la même surprise.
Je pense que oui.
C'est le nombre d'années.
Ouais, ben.
Techniquement, il pouvait signer pour 7 ans maximum.
Même, je pense que. Je pense
8 parce qu'il a encore son équipe.
Je pense qu'il a encore le droit jusqu'en septembre. Là.
Ah,
je pense
c'est
que
ça.
La
Donc 8.
Se
mais
fait.
Pourquoi 5? Qu'est-ce qui arrive les 3 années d'après? Ça, c'est curieux. Puis un peu, mais quasiment décevant, tu sais, de dire...
C'est qu'il a copié là-dessus Connor Bedard. Moi, c'est la première affaire, j'avais accroché le contrat de Connor Bedard. Il peut devenir agent libre sans restriction à 25 ans.
Mm-hmm. Fait que c'est un peu une espèce
McLean
de...
McLean Celebrini pourra devenir agent libre sans restriction à 26 ans. Les gars signent le minimum de temps.
Ouais.
Pour avoir la possibilité après ça de signer où ils veulent.
Et encore là, le Canadien a zéro eu à dealer avec ce genre de réquisition légitime, peut-être, de la part des meilleurs joueurs de la Ligue.
Il y a Dobesch qui a fait ça.
Ouais, mais un goaler en même temps, c'est tellement dur à comparer. Parce qu'on dirait que des joueurs comme ceux-là, tu sais, autant que McDavid, c'était ça. Donner un 2 ans aux Oilers pour dire placez-vous, sinon ça se peut, je fly parce que je veux gagner une coupe. Ça ressemble à ça pour Bédard en disant vous avez 5 ans, si dans 5 ans je trouve pas que la direction de l'équipe est le fun, je vais me donner la possibilité et la liberté d'aller ailleurs.
Puis en même temps, je dis que Dobesch a fait ça, lui, ça va être à 29 ans. Fait qu'on est encore ailleurs. Tu sais, les Bédard, les Celebrini, c'est vraiment au début où ils peuvent être agents libres sans restriction selon les. À 25-26 ans, c'est très, très, très jeune là, pour des joueurs de cette qualité-là. Eux autres vont signer. Hey, Celebrini, dans 5-6 ans, agent libre sans restriction, va signer 26 millions par année. Là.
Dans le cas de Demidov, je comprenais pourquoi le Canadien voulait le signer rapidement, parce que c'est la même année que Celebrini. L'an prochain, Demidov va encore gagner moins d'un million. Je comprenais pourquoi, parce que tu as un risque que s'il fait 95 points cette année, ben là, tu le payes justement 15-16 millions après ça. Dans le cas de Celebrini, là, il signe 18,8. Il faut que tu le signes parce que c'est ton meilleur joueur puis tu vas juste faire ce qu'il dit parce que c'est Celebrini puis c'est le meilleur joueur de la Ligue, t'sais. Ben, où ça le sera. Ça s'ostine. Mais tu sais, les Sharks, techniquement, mettons il y a une bonne saison, Celebrini, le salaire c'est encore 18 millions au mieux. Là, t'sais. 20 millions, 22, tu penses que les Sharks se disent on a peut-être économisé une couple de millions?
Je pense que oui.
Aïe.
Je pense que si Celebrini sort un 130-135 points cette année, puis qu'il y a moi je pense que c'est surtout dans les autres comparables. S'il y a d'autres gars cette année, si un, tu sais, mettons Quinn
Hughes, je pense qu'il est bientôt.
Je pense que c'est surtout Makar. Si Makar arrive puis signe 22 millions, ça se peut très bien que Celebrini dise je veux 22 aussi.
Mais c'est peut-être aussi dans un vouloir de mettre une certaine stabilité dans l'équipe, c'est quand même leur meilleur joueur de mettre ça de côté en disant de toute façon, il va falloir le payer un montant ridicule.
Mais je pense
on règle ça, puis on embarque dans la saison sur un point positif, ça, j'ai envie de dire.
Je pense que peu importe ce qui arrivait, Celebrini signait pas en bas de 18. Là.
Mais...
Puis je pense que ça se peut qu'il signait en haut de tout ça. Fait que moi, je pense qu'au niveau du montant, là, moi, il y en a beaucoup qui ont capoté en voyant le montant. Moi, quand j'ai vu le montant, j'ai
fait logique.
C'est ce qu'il mérite. L'affaire, c'est ça. C'est que j'aurais aimé ça pour les Sharks. Moi, je m'en fous. Là. J'aurais aimé ça pour les Sharks que ce soit un 7-8 ans et non un 5.
Je suis en train de me poser la question si le Canadien va atteindre le plafond salarial dans les prochaines années. Tu sais, c'est comme si le danger, c'est de surpayer quelqu'un qui va être agent libre ou quelque chose que tu vas aller chercher parce que tu as la place sur le salaire. Parce que les autres équipes se sont pas tant mis les mains dans des... tu sais, là, quand tu te fais arrêter par la police, des menottes. Ils se sont pas tant menottés.
Tu sais, quand tu te fais arrêter par la police...
Tu faisais le geste, mais tu sais, à radio, c'est toujours
quelqu'un
un peu...
J'ai aidé tantôt en début de show.
Oui, mais je savais pas ce que tu voulais dire.
C'est de même, là, je me faisais menotter. Les équipes se sont pas tant menottées avec ces contrats-là. Parce que le salaire et la masse salariale vont continuer d'augmenter. C'est de l'argent d'expansion, c'est de l'argent de contrat de télé, ça, là.
Mais le Canadien va devoir le faire parce que c'est là où on va voir... Mais le faire adéquatement.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas devoir arriver le 1er juillet puis surpayer un gars parce que c'est le gars qui manque à ton équipe. Va falloir le faire. Puis la beauté en ce moment, c'est que tu donnes le lousse de le faire.
Ouais.
Mais tu vas être obligé. Je pense que si tu veux gagner, tu vas être obligé de surpayer pour certains morceaux. Pour moi, c'est inévitable. Sinon, ben parce que tu sais, là, on regarde ça comme on veut. Le Canadien s'est pas amélioré depuis l'année passée, puis pour moi, c'est un problème.
Ouais, hein, moi j'étais comme au début mal à l'aise avec ça. Parce qu'il ne s'est rien passé encore. On n'a pas encore échangé Marchenko, qu'on aimerait bien avoir, puis tout ça. Puis plus ça va, plus que je me dis, je ne suis pas complètement contre l'idée d'ouvrir la saison de même quand même, puis d'ajuster en cours de route, puis de voir où ça va. On a encore le temps.
Je fais
on
confiance.
On a encore le luxe du temps. Fait que, à la limite, il n'y a rien présentement qui a été signé ailleurs que je me suis dit, ah, ça, tu vois, on aurait pu le payer, ça aurait pu être un comparatif, telle affaire, puis on l'aurait eu. À date, il n'y a rien qui m'a convaincu que c'était une bonne idée.
Moi, il y a Manta, là, qui a vraiment signé pour pas cher.
Ouais.
Cela dit, est-ce que lui aurait voulu, pour ce contrat-là, venir à Montréal? T'sais, il a signé 4,75 millions 2 ans avec New Jersey. Moi, un Manta, 2 ans, en bas de 5 millions, là...
Ouais.
Puis je comprends qu'en série, il n'a rien fait, mais après la saison qu'il y a eu, moi, Manta, d'ajouter un gars de 6 pieds 5 qui est capable de scorer des buts.
Entre lui et Dak. On aime Manta, hein?
Ben, moi je l'aime quand même, Dak, là, mais j'aurais pris Manta en plus.
Ouais.
Bon, ben, gars, merci beaucoup.
Oui, salut.
On te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup d'être passé.
On va faire du pain, en tout cas.
Ah!
Antonine tire du
gun.
Viendra
nous en reparler.
Ben oui, tu passeras demain.
Oui, oui.
Salut, Gab. Vous écoutez le retour de Boulevard 102.1. Gab Magno qui est venu nous offrir un genre de top de sport un peu improvisé parce que je l'ai croisé dans un bureau puis j'ai dit, Gab, viens donc nous parler du contrat de Celebrini. Mathias Turcotte, Antonine Iaccarini et Max Larouche avec vous pour les... les 3,5 prochaines heures, jusqu'à 18h. Au retour, les nouvelles avec Mathias. 88-971-101, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Le retour. 14h27. Bienvenue dans Le Retour à Boulevard 102.1. Et je vais préciser, parce qu'on a reçu des textos là-dessus, je disais que Denis et toute l'équipe du Retour revenaient la semaine prochaine, lundi. C'est bien le cas. La petite confusion qu'on avait, là, c'est parce qu'on a une pub en onde spécialement du pit stop entre Gravel et Marceau. Ça revient le 10, en effet, parce que Marceau, lui, revient le 10. Mais l'équipe de Gravel dans le retour au grand complet sera là lundi dès 14h. Manquez évidemment pas ça. Puis en attendant, ben je considère que vous êtes quand même bien servi avec Antonine Iaccarini, Mathias Turcotte et moi-même. On fait de notre mieux pour vous informer et vous divertir. D'ailleurs, parlant de vous informer sur les routes, écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. À la météo... Depuis tantôt, Environnement Canada nous parle de... on monte un peu de soleil. Je sais pas dans votre coin, là, s'il y a un petit peu de soleil quelque part, parce que pour moi, c'est assez mollo niveau soleil. C'est surtout nuageux. Mais 88-971-1021, s'il y a quoi que ce soit. Pour le reste de la journée, c'est 60% de possibilité d'averse. Le maximum est à 23. On est pas mal là. 28 pour ce qui est du ressenti. Ce soir et cette nuit, peut-être un petit peu de pluie, comme je disais en ouverture d'émission. On est quelques-uns, je crois, à surveiller ça en raison du festival de Lévis qui commence ce soir. Moi, chaque année, ce que je fais, c'est que je split un peu ma première fin de semaine du mois d'août, ça dépend tout le temps, là, fin juillet, début août, entre le festival de Lévis et Oshiaga du côté de Montréal. Et je dois dire que la première soirée du festival ce soir, ça commence fort avec la soirée électro avec Marshmello. Est-ce que je vais croiser des auditeurs de Boulevard au festival de Lévis ce soir? N'hésitez pas à faire signe au 88-971-1021. Puis à me faire signe en vrai, si on se croise, c'est toujours un plaisir. Donc c'est ça pour ce qui est de ce qu'on surveille à la météo. Pour les prochains jours, demain, 30% de possibilité d'averse, 24 degrés. Vendredi, 26 degrés. Alternance soleil-nuage. Pas mal la belle journée des prochains jours, je dois vous dire, parce que samedi, c'est assez nuageux. Pas de pluie nécessairement au menu. Dimanche, lundi, là, devrait y avoir des petites gouttes là, qui vont tomber. Antonine Iaccarini, on a de la bisbille dans la Fédération canadienne. Quelques semaines, mois après que le Parti québécois, qui risque d'être le prochain gouvernement au Québec, puis là encore, on ne sait pas, puis ce sera même un sujet un petit peu plus tard dans le show. Mais c'est ça, le PQ qui avait dit, nous autres, le TGV Québec-Toronto, on n'en veut pas. Ben là, commence à y avoir des petites réticences au sein du gouvernement de l'Ontario aussi par rapport à un appui au projet de TGV.
Oui, Doug Ford qui n'est plus certain que ça l'intéresse tant que ça, le projet de TGV. Il y a quelques députés conservateurs de Doug Ford qui ont signé une déclaration déclaration conjointe dans laquelle ils disent qu'il y a trop de questions qui demeurent en suspens et que trop de voix ont été ignorées. Il faut dire que le projet de TGV n'est pas super avancé. Là. Déjà, juste vous regardez sur le site d'Alto, allez voir le trajet, c'est flou de savoir exactement où est-ce que le train va s'arrêter, où seront les stations, etc. On peut avoir une idée, mais il y a pas mal de détails qui restent à préciser. Moi, je le vois pas comme un non formel. Je le vois comme un premier ministre de l'Ontario qui veut se donner un levier supplémentaire de négociation. On sait, Doug Ford, c'est quand même quelqu'un qui travaille principalement pour les intérêts de l'Ontario, même si des fois, il aime ça se faire appeler Capitaine Canada, c'est Capitaine Ontario. Puis, moi, ça m'a fait penser à quand c'est le temps de renouveler ma location d'auto. Là. Je suis comme, oh, pas sûr, ça me tente de revenir avec ce concessionnaire-là. Puis là, je fais un peu semblant que ça ne m'intéresse pas. Généralement, on t'offre plus de choses. Est-ce que le fédéral va être plus à l'écoute? Est-ce que Alto va être plus à l'écoute? Des voix ontariennes, là, comme les députés le disent. Ça brasse quand même au Québec aussi pour le TGV. Toutes les terres agricoles là, qui sont visées par un trajet d'Alto, oui, la majorité des Québécois veulent un TGV, mais quand tu tombes, quand le train passe chez vous, là, sur ta terre agricole, c'est sûr que là, c'est une autre histoire.
Puis, je pense qu'en général, à travers le Canada ou à travers le Québec et l'Ontario, il y a des bonnes raisons d'avoir au moins des réticences, ben sans oui. dire qu'on est contre le projet de TGV. Là. Hey, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose, puis c'est vrai que ça s'enligne déjà pour coûter cher avant qu'il y ait peut-être des explosions de prix parce qu'on s'attend à ce qu'il y en ait.
Oui, puis il y a toujours de la spéculation aussi entourant ces projets-là. Puis je sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours des petits doutes que des projets gérés par le fédéral. Par le provincial, c'est pas toujours génial non plus, mais le fédéral est le champion des fiascos et des dépassements de coûts. Là. On pourrait parler des projets informatiques,
ben
on
oui.
pourrait parler de certaines sociétés d'État qui sont pas particulièrement bien gérées. On peut avoir des doutes. Maintenant, de là à fermer la porte complètement, ça amène aussi la question, est-ce que c'est possible en 2026, 2027, 2028 de faire un grand projet de cette envergure-là? Parce qu'on est beaucoup dans le pas dans ma cour, parce qu'il y a beaucoup de politique qui se fait autour des projets. Tu sais, dans les années 60, là, tu faisais quelque chose, tu rasais un quartier, puis c'était ça qui était ouais. ça, puis c'était fait.
Puis ça avait des bénéfices, ça avait ses inconvénients
ben oui.
aussi, mais dans les bénéfices, il y avait « Hey, on avance
ben, ». C'est
ça. Je veux dire, à Québec, on l'aurait déjà notre troisième lien, puis le tramway, puis probablement une deuxième, puis une troisième phase de tramway si on était juste allé de l'avant. Puis comme je dis, là, ça n'a pas rien que des bénéfices, mais ça en a. Au moins, on avance.
Bien, c'est qu'on a l'impression que c'est plus possible de faire des grands projets, que peut-être aussi on a une vision de l'acceptabilité sociale qui n'est pas la bonne, c'est-à-dire que l'acceptabilité sociale, c'est pas l'unanimité. Ça veut pas dire que tout le monde va être content. Mais évidemment, c'est facile à dire quand c'est pas dans ta cour à toi. Le ministre des Transports, M. McKinnon, était en annonce aujourd'hui. Eux autres, ils annonçaient des investissements dans Via Rail, parce que pendant qu'il y a pas de TGV, ben on continue de prendre des trains qui arrivent en retard de Via Rail, qui annonçaient là, des investissements importants. Il a pas voulu trop s'avancer sur la question. Il a été interrogé, évidemment, sur les réticences de l'Ontario. Il s'est contenté de dire que les Canadiens veulent leur TGV.
Oui, mais il y avait eu un sondage, une étude de chercheurs de McGill il y a quelques mois, c'était en février que c'était sorti, puis ce qui ressortait entre autres, c'est-à-dire que ceux qui voudraient peut-être l'utiliser étaient prêts à payer à peu près 20$ de plus que les trajets de Via Rail.
Qui sont déjà très chers en passant.
Oui, ça oui. Souvent, je fais le... À toutes les fois que je me dis, parce que j'entends des
je
fois...
Tu pourrais prendre le train.
Ben, je me le fais dire souvent. Ouais. Hey, toi, tu vas souvent à Montréal, tu pourrais prendre le train au lieu de prendre un Amigo, Amigo qui est une petite plateforme qui permet de faire du covoiturage. Ça me coûte... Je l'ai déjà commandé pour vendredi matin pour m'en aller à Montréal.
J'ai tellement fait ça.
Ça m'a coûté 23$, là.
Ah, c'est rendu si ça? Je... Moi, dans mon temps, c'était 15$!
Ah,
puis
tu
si
vois...
quelqu'un chargeait plus que 15$, généralement, c'était pas quelqu'un de le fun.
Ah, mais tu vois, moi, quand j'ai commencé il y a quelques années à faire des Québec-Montréal en Migo, c'était à peu près 20. Puis là, à cette heure, 23, c'était aubaine, parce que souvent, c'est plus rendu entre 25 et 30. Mais dans tous les cas, c'est deux fois moins que le train, là.
Ben oui.
Le train, c'est à toutes les fois, j'y vais, je sais comment, oui, c'est vrai, ça peut être le
puis
fun,
le bus
train.
Aussi, tu sais, le bus, c'est quand même cher, c'est un monopole, mais c'est moins cher, puis c'est plus flexible en termes d'horaire aussi.
C'est très cher, le bus.
Ouais, ben, écoute, tout est relatif. À comparer du train, je trouve ça quand même moins cher. Mais à chaque fois que je vais à Montréal, c'est comme, bon, il faut que je choisisse mon inconfort. Là. C'est, est-ce que je prends un train en retard, mais je suis bien assis? Ou est-ce que je prends un bus à l'heure, mais je suis mal assis, ça me coûte quand même cher? Ou je prends mon char, puis je me gosse pour trouver des stationnements à Montréal?
Voilà. J'ai sorti des tarifs les moins chers là, pour un trajet Québec-Montréal actuellement. Si tu réserves un mois d'avance, t'es capable de t'en sortir pour 60$. Mais si tu réserves...
C'est ça, un mois d'avance.
Un mois d'avance, mais si tu réserves...
C'est pas remboursable, 900
masques privés. Non, exact. Si tu réserves dans les 3 jours, mettons que je réserve aujourd'hui, demain ou après-demain, c'est au-dessus de 100$.
C'est ça.
Fait que... Juste Québec pour aller à Montréal.
Fait que le train, déjà un mois d'avance, ça revient 3-4 fois plus cher que ce que tu peux avoir à Amigo. Là.
Mais je veux juste, parce qu'on reçoit des textos, les gens disent on a de la misère à payer l'épicerie, puis comment le monde se font faire pour se payer des billets de TGV. C'est beaucoup des entreprises puis des organisations qui payent le train. Okay, quand tu prends le train, moi je le prends régulièrement le train pour le travail. Si c'est pour aller à un festival à Montréal, je prends pas le train. Ça me coûte trop cher, puis c'est pas intéressant nécessairement. Mais c'est souvent les employeurs qui vont payer le train à leurs employés, qui considèrent que c'est plus efficient aussi qu'on travaille. Parce que dans le train, tu peux travailler. Bon, il y a comme un dead zone d'une heure où est-ce que le Wi-Fi, ça fonctionne pas. Là. Ça, c'est un autre enjeu. Mais souvent, c'est ça. C'est les ministères, les sous-ministres, des gens de grands employeurs qui vont faire la navette entre Québec et Montréal. Je pense que le TGV, ça risque de ressembler à ça aussi.
Mais l'affaire aussi avec le TGV, c'est qu'on n'a aucune idée combien ça va coûter. Il n'y a personne à date, à ma connaissance, qui nous est arrivé avec « oui, ça devrait coûter à peu près ça ». Il n'y a personne qui s'est avancé là-dessus.
Il y a les chercheurs dont tu parlais tantôt qui se sont avancés sur un montant, mais ils se basent sur rien.
Oui, c'est ça.
ils ne se basent pas sur rien, mais c'est très partiel comme information. Puis ça dépend d'un million de facteurs. Là. Vous le savez, là, les grands projets, quand ça niaise... Là, ben les prix montent. Là. On pourrait parler du tramway pendant une heure aussi. Donc, bref, moi, je pense que la surpolitisation aussi puis l'utilisation que les politiciens font de ces grands projets-là pour se faire du capital politique, ça contribue énormément à faire en sorte que les projets traînent en longueur. Quand tu as des politiciens qui commencent à jouer dans les trajets là, pour que ça passe dans leur comté là, puis à choisir la couleur des bancs, là, tu le sais que ça va être long puis ça va coûter cher.
Toujours dans le domaine des... ça brasse un petit peu dans la Fédération canadienne. On va parler un petit peu plus tard dans le show. Premièrement, avec Mme Julie White, qui est candidate du Parti libéral du Québec dans Jean Talon. On va parler de la vision des relations canadiennes de Charles Millard et du Parti libéral. Mais on va aussi discuter entre nous, avant de recevoir Mme White, d'une autre concession d'Ottawa face aux États-Unis et à Donald Trump. Puis on se demande un peu... ça va-tu finir par rapporter de faire ces concessions-là? Parce qu'à date, ça n'a pas donné grand-chose. Avant tout ça, Mathias Turcotte, un petit tour des nouvelles.
Oui, le chef du Parti libéral, justement, Charles Millard, qui a fait un point de presse ce matin pour mettre de l'avant sa vision des relations interprovinciales au sein du Canada. Le chef du parti qui dénonçait surtout le fait que, pour lui, la première ministre Christine Fréchette jouait en quelque sorte un rôle de figurant au sein de la nation dans les relations canadiennes. Pour lui, le gouvernement de la CAQ, durant le dernier, justement, Conseil de la Fédération à Charlottetown, n'a pas beaucoup fait avancer les dossiers du Québec. De son côté, on propose de faire une tournée canadienne si jamais on est élu pour renforcer les différentes relations économiques. On voudrait aussi mettre en place une rencontre des ministres québécois et ontariens environ une fois par mois. Il y a eu différentes réactions du côté autant du Parti québécois ou encore de Mme Christine Fréchette qui dénonce l'approche qu'elle qualifie de timide et fédéraliste de M. Millard et que pour lui, il privilégie une diplomatie canadienne arrimée à celle du Canada. Le gouvernement fédéral connaît maintenant le nombre exact d'employés de la fonction publique qui ont demandé de faire partie du programme d'incitation à la retraite anticipée. C'est au total 6855 demandes qui répondent aux critères mis en place par Ottawa. Sur ces 6855, on en a rejeté 41 pour le moment, donc vraiment à peu. Ce programme-là qui avait été mis en place dans le but de réduire la fonction publique. Donc, on incitait certains fonctionnaires fédéraux à prendre une retraite anticipée. En parlant du gouvernement de Mark Carney, on a annoncé aujourd'hui abandonner les redevances de 5 % sur les grandes plateformes de diffusion américaines, Netflix et Prime Video, entre autres. On remonte en mai. En mai dernier, le gouvernement Carney qui avait demandé au CRTC de reculer sur une mesure qu'il voulait mettre en place. On voulait faire passer de 5 % les redevances demandées à 15 %. Donc finalement, on a conservé ça à 5 % dans le but justement d'améliorer les négociations avec les Américains à cette époque-là. Eh bien, maintenant, on vient tout simplement retirer ce 5%-là qui aurait permis d'amasser des fonds pour financer les médias et la culture d'ici. De ce qu'on dit du côté de Mark Carney, c'est pas une mesure nécessairement pour améliorer les négociations avec les Américains cette fois-ci. On dit que c'est une décision qui a été prise depuis maintenant plusieurs mois.
Bien sûr.
L'industrie québécoise, en fait, la consignation qui devra confier le traitement des contenants de verre aux entreprises qui existent déjà. Parce que ce qu'on nous apprenait il y a de ça quelques semaines, c'est que consignation voulait, en quelque sorte, construire ses propres usines de traitement de verre, alors qu'il en existe déjà. Finalement, le gouvernement a fait passer un projet de règlement. C'est la ministre de l'Environnement, Pascale Derry, qui a annoncé tout aujourd'hui pour obliger l'organisme, justement, à passer à travers des usines qui sont déjà existantes. Les douanes américaines ont repris leur activité à l'aéroport Montréal-Trudeau. Ces activités-là, qui avaient été suspendues un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'il y avait une forte odeur de vernis qui émanait d'une zone de construction à proximité. Certains vols à destination des États-Unis qui avaient d'ailleurs été annulés. Finalement, on a pu reprendre des activités sans problème.
Merci beaucoup, Mathias. Au sport, la NBA qui a annoncé aujourd'hui que les Jeux du Canada de la NBA 2026 mettront en vedette deux matchs préparatoires opposant les Raptors de Toronto au Heat de Miami au Centre Vidéotron à Québec le samedi 3 octobre et les Raptors aux Clippers à la Rogers Arena de Vancouver le samedi 10 octobre. Donc, il s'agira du premier match ever de la NBA disputé à Québec, préparatoire. Mais quand même, les billets qui seront mis en vente à partir du jeudi 20 août. On a parlé en ouverture d'émission, Macklin Celebrini, qui deviendra le joueur le mieux payé de la LNH en 2027-2028. Il s'est entendu avec les Sharks de San Jose sur une prolongation de contrat de 5 ans, 18,8 millions par année, qui entrera en vigueur en 2027. Il pourrait devenir agent libre sans restriction à seulement 26 ans. Dans la MLB, défaite de 8-6 des Blue Jays de Toronto hier face aux Nationals de Washington. La série qui se termine cet après-midi et c'est présentement 1-1 les Blue Jays qui viennent tout juste de créer l'égalité. On est en sixième manche de ce côté-là. Et capitale de Québec, en raison des mauvaises conditions météo, la rencontre d'hier soir à Trois-Rivières a été annulée, remise à aujourd'hui dans le cadre d'un premier programme double. Le premier match qui débutera à 17h. Au retour de la pause, Steve Boutet de la NSPW, accompagné de Raphaël Pelletier, initiateur du show de vendredi au Centre Horizon, dont 100% des profits seront remis à la Fondation des pompiers du Québec dans le cadre du relais des pompiers pour contribuer à l'achat d'équipements et à l'amélioration des traitements. Donc, on parle de cet événement-là pour une bonne cause qui a lieu vendredi, mais aussi du gros gala qui s'en vient au Stade Canac dans quelques semaines.
Le retour de Boulevard.
14h47 minutes dans le retour à Boulevard 102.1, 418-971-1021, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. On a le plaisir d'accueillir en studio, non pas un, mais deux invités. Un que vous connaissez bien, que vous entendez quand même souvent à Boulevard 102.1, Steve Boutet de la NSPW. Salut Steve!
Salut Max, ça va bien?
Yes, très bien, toi?
Ben oui.
Et l'autre invité, c'est Raphaël Pelletier qui est avec nous. Salut Raphaël.
Salut.
On vous reçoit les deux parce que, j'allais dire, demain, la semaine va pas assez vite vraisemblablement. C'est vendredi qu'il y a un événement spécial du côté du Centre Horizon, un gala de la NSPW dont 100% des profits seront remis à la Fondation des pompiers du Québec dans le cadre du relais des pompiers pour contribuer notamment à l'achat d'équipements, à l'amélioration des traitements. Cette idée-là est venue d'où? Est venue de qui?
C'est venu 100% de Raphaël. C'est lui qui est derrière ça. Là.
Exactement. Moi, je suis un nouvel élève à l'Académie de lutte, la NSPW.
Ah ouais.
Puis moi, je suis un ancien militaire, puis j'ai été blessé en service, justement, par les brûlures. Puis j'avais déjà été abordé là, par des parents que je fais du baseball pour le relais des pompiers. C'est des pompiers, puis justement, il y avait besoin d'aide avec ça. Puis je l'ai commandé déjà avec ma compagnie, puis je me suis dit, pourquoi pas joindre le plaisir à l'agréable. J'étais un gars super passionné dans tout ce que j'entreprends. Puis la meilleure manière de rendre service, c'était de joindre ça les deux ensemble. Puis ça va... Ça, J'avais vu des levées de fonds qui avaient été faites justement avec des galas de lutte, puis j'avais été impressionné par la réponse du public. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de bénéficier puis d'embarquer dans la vague de ça pour faire le bien.
Hein. Est-ce que vous êtes connu à cause que tu as voulu te lancer dans la lutte ou vous connaissiez déjà avant ça?
Non, ça a commencé de même, puis maintenant, c'est mon patron.
Bon.
Des concours de circonstances.
Ouais. Tu parlais, Raphaël, des levées de fonds que tu avais vues par le passé avec la lutte. T'sais, nous autres, on en fait chaque année avec Marceau qui s'implique, ouais, avec la NSPW, où on récolte des fonds. Pour toi, on le sent chaque année quand on le fait, puis comme je dis, on le voit de proche avec Boulevard, on s'implique. Steve, ça... C'est quelque chose qui est important pour toi avec la NSPW de participer à ce genre de levée de fonds-là, à ces activités-là pour des bonnes causes?
Ben oui, c'est important parce que, tu sais, veux, veux pas, s'il n'y a pas de monde, la NSPW n'existe pas. Fait que si on a la chance de redonner, c'est quelque chose d'important pour nous autres.
Parle-nous, Raphaël, du relais des pompiers, de la fondation des pompiers en général. Tu sais, dans le concret, les fonds qui vont être récoltés, là, à quoi ça va aller?
Dans le fond, présentement, le relais des pompiers sont en train de faire, d'organiser le relais des pompiers. Ça, c'est 90 équipes de pompiers qui vont partir de l'unité des Grands Brûlés de Montréal, puis à relais, dans des relais de 4 à 5 km avec leur full combat suit, avec leur max d'oxygène et tout, vont faire un relais jusqu'à l'unité des Grands Brûlés de Québec.
À la course?
Oui, à la course, ils vont donner tout ce qu'ils vont, là, parce, tout ce qu'ils peuvent, parce qu'on s'entend qu'un bunker suit de pompiers...
Il doit faire chaud là-dedans.
C'est incroyable. Mm.
Ils sont habitués à la chaleur, remarquez.
Mais c'est tout un challenge. Puis eux, ils ramassent ça, parce que les pompiers, c'est ça qui est extraordinaire avec ce monde-là, c'est qu'ils ne font pas juste éteindre des feux. Ils prennent soin du monde une fois que c'est fini. C'est vraiment du monde grandiose. Puis quand moi, j'ai passé par les Grands Brûlés, j'ai eu un peu besoin de cette aide-là. Puis ça m'a permis de découvrir ça. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'aide qui vient de l'extérieur, justement, des fondations comme ça, pour améliorer les traitements, améliorer la vie du monde. Parce que moi, j'ai été vraiment chanceux dans ma malchance, mais il y a du monde qui l'ont vraiment pire que ça. Fait que tout cet argent-là va retourner directement à la Fondation des pompiers pour les Grands Brûlés.
Ça ressemblait à quoi, dans ton cas, Raphaël, le support que tu as reçu de cette organisation-là?
C'est beaucoup du support moral, beaucoup des accessoires, des gants, moi, j'ai été léger dans mes problèmes. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de support à la maison puis d'accessoires un peu plus compliqués. Puis c'est beaucoup de fonds que c'est pas tout le monde qui ont. Fait qu'ils vont pouvoir se faire.
Donc, Steve, gros gala demain soir. Je regardais les noms qui vont être là. On sort quand même des bons canons avec des Marco Estrada, un certain Stephen Sullivan aussi qui va être là, Michel Plante, Travis Toxic, d'autres bons lutteurs qui vont être en vedette. On sort une grosse carte.
Oui, ben c'est important de donner le meilleur pour attirer le plus de monde possible pour pouvoir donner le plus gros montant possible. Il y a Matt Falco aussi qui va être là, qui est super populaire. Fait que les gros noms de la NSPW vont être là.
Pour se procurer des billets pour la soirée de vendredi, ça se passe où?
C'est lepointdevente.com. Juste mettre NSPW dans le moteur de recherche, puis vous allez arriver sur le lien.
Tant qu'à t'avoir, Steve, je veux qu'on parle de la soirée aussi qui s'en vient le vendredi 21 août. Au Stade Canucks, on dirait que c'est toujours plus grand que nature comme soirée.
Oui.
Puis surtout là, cette année avec le concept, avec la finale d'un combat de cage entre Alex Silva et Pee-wee. Mais en général, cette soirée-là au Stade Canucks, c'est toujours un soir exceptionnel pour la NSPW.
Ben oui, parce qu'en dans une certaine manière, c'est notre début de saison qu'on fait au Stade Canucks. Avant, on le faisait au Centre Horizon, puis les gens ils disaient qu'il faisait trop chaud. Fait qu'on s'est dit, hey, on va faire ça dehors au Stade Canucks, c'est plus grand que nature. Je trouve que c'est un endroit parfait pour de la lutte, même si y en a qui disent, ouais, mais là, tu sais, vers le fond du terrain, c'est vide. Ouais, mais vire-toi de bord, puis tu vas avoir une belle vue, là. Fait que, tu sais, je trouve que commencer la saison-là au Stade Canucks, c'est juste parfait. Là.
Explique au monde qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans un combat de cage.
Mais surtout que là, cette rivalité-là entre Pee-wee et Alex Silva, ça dure depuis longtemps. Là. Alex Silva a même été attaqué Pee-wee sur son lieu de travail.
Ça se fait pas, ça.
Non, ça se fait pas. Là. C'est juste
ça n'a pas de classe.
Aucune classe. Puis, ben, c'est ça, ça finit toujours que Silva fait son petit coup puis il sauve après. Mais là, il est dans une cage, là, il ne pourra pas se sauver. Puis, même chose pour Pee-wee. Là. Fait que, ils vont être enfermés là-dedans puis le meilleur va gagner. Là.
Raphaël, toi, la lutte, comment ça va depuis que tu as commencé? Commences-tu à être à l'aise dans un ring?
Tranquillement, pas vite, j'ai pas le choix. C'est premier combat vendredi, justement, à l'épreuve du feu. Je sais pas qui que je vais affronter.
Ah ouais?
Ouais. Fait que c'est, ça va être mon baptême du feu.
Ça te stresse-tu de pas savoir qui t'affronte?
Le terrain va dicter la manœuvre. C'était ça avec l'armée, ça va être ça avec sur tous les combats. Fait que je suis pas trop stressé avec ce qui va arriver, je suis prêt.
Demain au Centre Horizon, j'arrête pas de dire demain, vendredi au Centre Horizon, un show de la NSPW, 100% des profits qui sont remis à la Fondation des pompiers du Québec dans le cadre du relais des pompiers. Steve, Raphaël, merci beaucoup d'être passé.
Merci.
On vous souhaite un bon gala vendredi, puis on vous souhaite un excellent gala aussi, Steve, au Stade Canac. Avec notamment le combat de calme. Moi, ça m'excite bien gros, les combats de calme.
Tu viens de voir?
Je vais essayer de checker ça. Mon horaire d'été est assez complexe. Ouais. Si je suis disponible, je vais être là, c'est sûr. Le combat de calme, je m'attire bien trop pour manquer ça. Merci, les gars. Au retour, on revient avec cette fameuse nouvelle décision d'Ottawa. Ça a l'air que ça n'a pas rapport avec une nouvelle concession face à Donald Trump, mais de laisser tomber la fameuse taxe Netflix.
Le retour de Boulevard.